Nous, on va faire des allers-retours effectivement gustatifs entre l'Italie et la France. Et vous, que faites-vous? Dites-nous où va votre route. Laissez-nous un message sur le répondeur de France Inter. 01 56 40 68 68, comme Louise aujourd'hui, qui justement rêve d'un aller-retour entre l'Italie et la France.
Je rêve du volcan de Stromboli. On devait y aller pour les 30 ans de ma meilleure amie. On devait partir de Paris en train, changer à Marseille, prendre un train de nuit pour descendre toute l'Italie jusqu'à Naples, arriver le soir, prendre le ferry la nuit et arriver le matin à l'aube sur Stromboli. Cette toute petite île et cet immense volcan noir, et on devait y être pour ses 30 ans, mais à cause du confinement, pas possible. Alors j'attends, j'en rêve, du volcan de Stromboli avec ma meilleure amie.
France Inter, chacun sa route.
C'est un voyage culinaire et littéraire entre l'Italie et la France. C'est un voyage artistique, parfois philosophique. C'est un croisement entre différents arts. C'est un voyage pour nos palais. C'est une émission pour les oreilles, bien sûr, mais aussi pour la bouche. Notre invité a écrit deux livres, Spaghetti Wars, et un livre qui n'est pas encore sorti en France, I Conti con l'Oste. Quelle belle langue l'italien, même si j'ai pas compris ce que je venais de dire, mais il va nous l'expliquer. Il écrit aussi pour Slate.fr et pour le quotidien italien La Repubblica. Et bien sûr, il est aussi très souvent en cuisine, dans différentes cuisines, dans différentes régions. Il a choisi de démarrer cette heure ensemble avec l'un de ses écrits.
Élodie Font, chacun sa route sur France Inter.
Il faut reconnaître que j'ai un vrai problème avec les vacances en général. Pas avec le voyage, qui est une très belle chose en soi. Juste, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on devrait perdre du temps à s'organiser pendant des mois afin de se reposer. Si je me sens fatigué et que j'ai envie de repos, mon premier réflexe n'est absolument pas d'aller quelque part, mais plutôt de ne pas bouger. Je comprends que parfaitement que cela ne soit pas très sexy ou intéressant à raconter, mais je ne crois pas être le seul à voir les choses de cette façon. Idéalement, pour moi, les vacances consistent tout simplement à arrêter de faire ce que je fais d'habitude, ou alors de le faire plus lentement. M'asseoir, jouer aux cartes, voir des amis que je ne vois pas d'habitude, manger des choses cuisinées par quelqu'un d'autre que moi, et chercher éventuellement à atteindre cet équilibre intérieur qui pour l'instant m'échappe encore.
Bonjour. Bonjour Tommaso Melilli.
Bonjour Elodie, bonjour France Inter.
Vous avez écrit ce texte pour Slate?
Pour Slate, oui.
Il y a deux ans?
Il y a deux ans.
Pourquoi avoir choisi ce texte-là?
Bah, parce que j'aime toujours dire le contraire de ce qu'on aurait envie de s'attendre, de ce qu'on s'attend.
Mais vous le pensez?
Je l'ai longtemps pensé, je me suis longtemps battu avec toutes mes forces pour ne pas partir en vacances.
Et puis maintenant, vous vous battez un peu moins?
Je me bats peut-être un peu moins, mais quand même, je suis à Paris en ce moment, en train de travailler, et là, ça fait mon mois de vacances, et je suis en cuisine, en train de travailler.
Est-ce que c'est aussi parce que vous avez donc, on va en parler, hein, vous avez donc grandi en Italie, vous travaillez à Paris depuis très longtemps, même si maintenant vous faites plus d'allers-retours entre les deux pays. Est-ce que c'est aussi pour ça, quand on habite dans un pays qui n'est pas celui dans lequel on a grandi, que de toute façon on va passer une partie de ses vacances dans son pays d'origine et que les vacances n'ont pas exactement la même signification?
Exactement, tout à fait. Du coup, revenir dans le pays où d'où l'on vient, ou parfois revenir dans le pays où on est devenu locaux, comme c'est le cas pour moi à Paris, parce que je me sens local à Paris et beaucoup moins en Italie en réalité. Et revenir est parfois un besoin et parfois une corvée. Donc à un moment donné, il y a déjà un voyage qui se fait et il y a déjà un changement d'espace, un changement de temps. Et donc voilà, à un moment donné, on a juste envie que ça, l'affaire est réglée,
oui.
Comme ça.
C'est vrai, ça veut dire que vous dites « je me sens plus local ici à Paris qu'en Italie ». Vous vous sentez plus chez vous aujourd'hui en France?
Absolument. En France, je dirais même dans le 20e arrondissement à Paris.
Ah oui, c'est très ciblé comme chez vous.
Le lieu où j'ai le plus longtemps habité, le quartier où j'ai le plus longtemps habité de mon propre gré, de mon choix.
Et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez plus chez vous?
Le fait que j'y ai grandi, enfin que j'y ai grandi, que j'y ai grandi en tant qu'adulte, j'ai compris beaucoup de choses de moi et voilà. J'y ai longtemps travaillé. C'est un peu le seul endroit où je croise des gens dans la rue qui me connaissent, que je connais. voilà. Je pense que quand on est un expatrié, comme je l'ai été pendant presque 10 ans à Paris et en France, et on a un peu d'accent, et la première question qu'on nous pose quand on rencontre quelqu'un, c'est bah, t'as un petit accent, tu viens d'où? Et oui, bon, on pourrait parler d'autres choses avant. Enfin, non, souvent pas. Et la question est, moi, c'est une question qui m'a toujours un peu dérangé. Je trouve beaucoup plus intéressant de se demander où es-tu local?
Oui.
Où tu te sens chez toi?
Je suis contente de vous l'avoir posé en premier, alors.
Et ce n'est pas qu'un lieu, d'ailleurs. On peut se sentir locaux dans plusieurs endroits.
Et en tout cas, vous, c'est précisément dans cet endroit-là. Vous êtes né en Italie, Tommaso Melilli, en 1990, au sud de Milan. Vous y avez grandi aussi. Alors, pas grandi en tant qu'adulte, mais grandi en tant qu'enfant, puis adolescent. Ça ressemble à quoi, la région où vous êtes né?
Bah, pas grand-chose, en réalité. J'ai longtemps souffert de ne pas pouvoir expliquer d'où je venais, parce que souvent, quand je rencontrais les gens en France ou à Berlin, où j'ai passé un peu de temps aussi, j'ai longtemps souffert de ça, parce qu'on disait, tu viens d'où? Bah, du sud de l'Italie. Et les gens s'imaginent l'Italie comme un truc, il y a la mer, il y a plein de belles végétations, des collines, etc. Alors là, pas du tout, c'est très plat. Il y a quasiment que du maïs. Et c'est assez ennuyeux comme paysage. Il fait très, très chaud en été. Et horriblement froid et humide en hiver. Et puis, il y a 2 ou 3 ans, j'ai enfin eu une révélation, parce que c'était très compliqué d'expliquer d'où je venais. Et puis, il y a eu ce film de Luca Guadagnino qui a eu un grand succès, qui s'appelle Call Me By Your Name, et qui est tourné à une dizaine de kilomètres d'où je suis né. Donc, entre la ville de Crema et la ville de Cremone. Et là, on me demande, tu viens d'où en Italie? Bah, t'as vu Call Me By Your Name? Voilà.
Ah, il vous a bien aidé.
Oui. Oh là, par contre, en regardant le film, on dirait que c'est un endroit magnifique, insoupçonné, déniché. Voilà. Le directeur de la photographie était vraiment très très bon.
Enfant, adolescent, vous pensez à partir? Ou c'est venu plus tard?
Plus adolescent, j'ai beaucoup souffert. Enfin, j'ai passé toutes les premières 18 années de ma vie dans un village de 100 habitants, peut-être moins, parce que bon, on les avait comptés il y a un moment, donc la population étant âgée, il y en a sans doute moins qu'on pense. Et j'étais le seul enfant de mon âge. J'étais tellement le seul enfant de mon âge qu'à un moment donné, j'avais un peu imaginé, j'avais l'impression, quelque part dans ma tête, il y avait quelque chose qui me disait qu'au fond d'une rue, d'une ruelle de campagne, il y avait un autre enfant de mon âge qui n'allait pas à la même école, mais qui était là. Et j'ai jamais voulu
vérifier
parce que bon, la déception aurait été pire que la confirmation.
Donc il y avait de la solitude et c'est parce que vous vous sentiez seul que vous vous êtes dit à un moment, je vais aller voir ailleurs?
Ah oui, c'était une prison pour moi. C'était une prison, et donc à un moment donné, il y avait une ville. Au moment donné, j'ai eu un scooter ou j'ai eu un vélo, mais la ville la plus proche de 60 000 habitants était déjà beaucoup trop petite.
Et, ah oui, vous fallait quand même une grosse ville.
Bah, surtout, elle était à 25 km quand même, donc revenir le soir en scooter avec les conditions météorologiques dont je parlais tout à l'heure, c'était pas évident.
Ouais.
Et donc, à un moment donné, voilà, j'avais fait le tour de la question et il n'y avait plus de là-bas pour moi là-bas.
Et votre famille, vos parents, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais le fait de dire en fait, ici je ne me sens pas bien, je vais aller ailleurs, ça les a.
Je les ai tellement fait chier pendant toute mon adolescence qu'à un moment donné, c'était clair que.
Ah oui, eux aussi voulaient que vous partiez. Ouais.
Non, mais bon, juste, j'ai eu une éducation que j'aimerais transmettre à mes enfants quand ça sera le moment. Et ils m'ont laissé partir, ils m'ont poussé à partir très, très volontiers et très. Enfin, avec de l'appréhension, sans doute, mais sans vous le dire. Mais sans me le dire, non.
Vous étiez un enfant chiant, selon vos propres termes, sur la nourriture. Vous ne mangiez aucun légume, aucune viande et seulement les croûtes de pizza. Qu'est-ce qui vous faisait peur dans les plats que vous mangiez, enfant?
La surprise, les choses inattendues, Et ce qui me faisait peur était le fait que je demande à avoir quelque chose fait d'une certaine façon et sans certains éléments, et à en retrouver ensuite d'imprévus et qui aurait pu avoir des textures et surtout des goûts explosifs et perturbants. Et donc voilà, c'est comme on a tous des problèmes. Il y a un bon tiers de l'humanité qui a des problèmes avec les capres et les anchois. C'est tout petit et ça a beaucoup de goût. Donc c'était ça le problème. Mais c'était une question de confiance essentiellement, parce que dès que j'ai commencé à mettre les mains dans la pâte, et je me suis rendu compte que en fait, si je savais que j'allais retrouver ces objets, ces petits ingrédients quelque part, ça me posait aucun problème.
Il y a toujours des aliments qui vous dégoûtent aujourd'hui, Tommaso Melilli?
Pas spécialement. En réalité, je suis un omnivore idéologique, on va dire. Je choisis de tout manger, de tout déguster, et de tout goûter. Pour mon propre plaisir, qui est autre chose par rapport au travail, pour mon propre plaisir, je mange beaucoup moins de choses. Je mange quasiment que des légumes, des œufs et du poisson quand il y en a du bon, quoi. Et voilà.
Vous avez donc 14 ans à un moment et vous vous dites « Bon, je n'ai qu'à cuisiner ce que je mange et comme ça, ça va peut-être m'aider ». C'est quoi le déclic? C'est que vous aviez faim? Vous étiez un adolescent, vous aviez besoin de manger?
Non, le déclic, c'était que je voulais faire à manger pour une jeune fille.
Ah
oui. Voilà.
C'est souvent ça le déclic.
C'est simple. Si après, il y a une question de pourquoi je suis arrivé à Paris, la réponse est toujours la même. C'est pas la même jeune fille, mais...
Ah voilà. Je vous la reposerai peut-être. Et le premier plat que vous avez fait pour cette jeune fille, alors?
Bon, je crois que c'était des pâtes avec des tomates cerises, assez improbable. Mais voilà, pour moi, c'était déjà une exploration inouïe.
Ouais. Elle a été épatée?
Non, pas tant que ça.
C'était donc un échec. Voilà. Vous déménagez à Paris à 19 ans.
Elle m'a même dit de dégager pour qu'elle puisse continuer, parce que je n'arrivais pas au bout de l'affaire.
Ok. Bon, alors, c'était pas avec la bonne. C'était pas la bonne, en tout cas. Vous déménagez à Paris à 19 ans pour faire des études de lettres. Vous dites que vous étiez obsédé par le monde de l'édition et de la carrière universitaire. A priori, vous étiez aussi obsédé par une fille. À quoi ça ressemble d'être obsédé par le monde de l'édition?
Pour moi, ça ressemblait à rêver d'être écrivain et à ne pas avoir le courage de le dire, parce que c'est pas non plus un truc qu'on déclare à tout le monde à l'apéro quand on a 18 ans. Donc le rêve était celui-là, et souvent quand on a envie de danser avec quelqu'un, mais on n'a pas le courage, il nous suffit pas de danser avec, mais de danser prêt. Et du coup, pour moi, l'édition ou l'université et la presse, c'était des choses qui me passionnaient beaucoup. Et du coup, où souvent on faisait les mêmes choses que j'aurais voulu faire. Mais me dire que j'aurais été éditeur ou traducteur ou chercheur était une façon de danser près à une personne, près d'une personne, dans ce cas-là, d'un rêve, d'une profession que je n'avais pas le courage de...
Écrire des romans.
Oui, tout à fait.
Et que vous avez...
Être narrateur, je dirais.
Être narrateur?
Oui, je dirais plus être narrateur.
C'est quoi la différence avec écrire des romans pour vous?
Je trouve que un roman est une histoire qui se clôt, qui se ferme et qui n'existe que dans un livre, que dans cet espace. Et moi, on en parlera, je pense, quand j'ai... Ma forme de narration qui n'est pas que écrite, à l'écrit, je crois qu'elle arrive mieux que sous n'importe quelle autre forme, mais ma forme de narration de base, c'est quand je suis au restaurant, il y a un moment où je pose les mains sur la table à côté des clients, je me mets là et mes collègues disent que je me mets en mode Père Castor et je commence à raconter des trucs. Et donc voilà, être narrateur, conteur, c'est quelque chose ça a été ma façon d'habiter l'espace social. Ma première façon d'habiter l'espace social et ma façon de casser ma timidité.
Il y avait Père Castor aussi en Italie?
Bien entendu.
Ah, vous ne l'avez pas découvert ici alors?
Non.
Vous allez nous raconter comment petit à petit vous avez mis un pied puis un autre dans les restaurants et que vous êtes devenu chef, Tommaso Melelli. Vous restez avec nous, c'est vous qui prenez la route avec nous sur France Inter jusqu'à 15h dans Chacun sa route. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de chanter vos menus, mais le groupe Aston Villa a proposé à plusieurs artistes de réciter un menu de Pierre Gagnaire. Amusez-vous à reconnaître toutes les grandes voix de la chanson française qui s'amusent dans ce slow food sur France Inter.
Pascaline d'omble chevalier, fine escalope pochée dans une infusion d'herbes fraîches au poivre de Madagascar. Gelée au vin de paille, bouquet d'écrevisses lié d'un sabayon au cédrat.
Mille feuilles croustillant au château Climas, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuil et miel d'arbousier, une déclinaison d'asperges vertes et blanches.
Pigeon gautier rôti entier puis terminé à l'étouffer dans un poivron rouge. Galette de lune cébette aux fruits secs, miroir cassis de vin, échalote confite et traits de chocolat amer.
Les poissons bleus, pavés de bonnet cuit en cocotte, terminés dans un jus de lisette au vadouvant, escabelles de sardines à l'aubergine, poêlés de thon rouge lié d'un sucre de crevette grise, pissaladières d'anchois frais aux poules de choux.
Les langoustines, trois préparations de langoustines bretonnes, grillées terre de sienne, en tartare et en mousseline, infusion de crustacés au girole lié de caroube, salade de mangeline, tuiles, amandes et citron vert.
Charcuterie fine, ballotine de foie de canard aux graines de moutarde râpée de chorizo, pâté de veau truffé, chiffonade de poirier rouge, bouillon cultivateur, bélota tartinée d'une pâte de figo xérès, l'euro portugais, copa corse et régal.
Le homard en trois services, petit homard bleu, poché au moment, puis simplement enrobé d'un beurre noisette, gingembre et citron bergamote, bocconcini, haricots, viande et pinces en salpicon, consommé glacé à la menthe verte, focaccia coraillée.
Le bar. Bar de ligne cuit entier en papillote au citron de menton. Jus de cuisson jumper à l'orge perlée. Pulpe glacée de pommes vertes, coriandre fraîche et coco râpé.
Le biscuit soufflé à la chartreuse. Liqueur verte des pères chartreux. Chartreuse jaune, paillettes et gelée. Trois petites pâtisseries célestes. Un sacristain, une religieuse, un capucin. Amen.
Alors, est-ce que vous les avez reconnus ? Alain Bachung, oui, Jean-Louis Aubert, Zazie. Je vous laisse fouiller pour trouver ceux qui manquent. C'était Slow Food sur France Inter. Vous écoutez Chacun sa route qui, jusqu'à 15h, s'infiltre dans les cuisines traversées par le chef Tommaso Melelli, qui nous emmène aussi bien de notre côté de la frontière que du côté de l'Italie. Il nous a raconté il y a quelques minutes qu'il était arrivé à Paris à 19 ans. Il fait des études de lettres et puis... Passé ces quelques années où vous faites des études de lettres, vous devez travailler, puisque votre petit frère se met à faire des études et qu'il faut que vous gagniez de l'argent. Vous vous mettez à travailler pour un important grossiste d'huile d'olive, toujours à Paris. Pourquoi vous êtes resté à ce moment-là en France, à la fin de vos études de lettres ?
En réalité, mes études de lettres n'étaient dans mon horizon et n'avaient pas tout à fait terminé. J'aurais continué, juste j'ai arrêté les études. En fait, quand je suis arrivé ici, je n'ai pas prévu de partir. J'avais pas prévu de partir.
Ok.
C'était assez clair. Quand je suis parti, il y a que le billet d'aller. Après, on verra. Tu vois. Et après, j'envisageais éventuellement de partir une autre fois pour ailleurs, mais il n'y avait pas un retour prévu.
Oui.
Et donc, j'aurais bien continué les études. J'envisageais à l'époque encore de continuer, de faire un doctorat, etc. Et à un moment donné, il y avait de la fatigue, quoi. Il y avait de la mollesse par rapport à ce monde. Et il y avait quelque chose qui m'attirait beaucoup dans la cuisine. Et donc, voilà.
Vous vous êtes dit, ça va me donner de l'énergie.
À partir des premiers jours, oui, j'avais envie d'aventure. J'avais envie que ça bouge. J'avais envie de pouvoir me faire mal, d'avoir mal aux jambes. Alors là, je peux dire, j'ai réussi.
Avoir mal aux jambes.
Ouais. Et voilà, j'avais envie de ça. J'avais envie de rencontrer plein d'inconnus tous les jours.
Et donc, vous vous mettez à travailler pour plusieurs restaurants. Emmenez-nous en voyage avec vous dans une cuisine. À quoi ça ressemble, l'ambiance?
C'est le bordel. C'est un grand espace où il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de crier. Où il y a tout le temps du bruit, justement, tout le temps des tensions, tout le temps de l'adrénaline, que nous, on est obligé de transformer en autre chose. J'ai appris en faisant ce métier, et je ne l'ai pas toujours fait avec lucidité. Il y a un moment où j'ai appris, j'étais très nerveux, dans une phase très compliquée de ma carrière. La première fois que j'ai géré un restaurant, et j'avais des crises de rage horribles, comme c'est souvent le cas dans l'imaginaire de ma profession. Et là, j'ai appris et compris que la rage était une forme d'adrénaline, et que du coup, je pouvais transvaser cette énergie sur autre chose. Et du coup, je pouvais la mettre dans autre chose, et donc, par exemple, nettoyer tout le temps, ranger en permanence, même si j'ai pas le temps de le faire, après le fait d'avoir rangé des charges, ouais. Et surtout on a le banc plus propre. Et on a les idées plus claires par la suite.
Canaliser en fait.
Ouais, canaliser, exact.
Et vous travaillez souvent pour des cuisines ouvertes, c'est-à-dire que les clients vous voient en train de cuisiner, vous voyez les clients en train de manger.
Conditions non négociables.
Conditions non négociables, ça veut dire que vous ne pouvez pas crier, en l'occurrence, vous ne pouvez pas vous énerver les uns sur les autres.
Oui, non, tout à fait. Mais bon, après, on ne peut pas crier les uns sur les autres aussi, parce que crier les uns sur les autres, ça fait mal, même si les gens n'entendent pas. Enfin, ça fait mal aux autres, ouais, même s'il y a personne qui
comme
entend.
Comme vous disiez, il y a du bruit, il y a des gens qui crient.
Oui, non, il y a du bruit, mais non, on peut monter la voix. Mais surtout parce que parfois le collègue est loin, mais il y a façon et façon de le faire.
Ouais. Pourquoi vous, justement pour vous, c'est pas négociable le fait que ce soit une cuisine ouverte?
Pour moi, pour deux raisons. La première est un peu plus technique, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler avec des serveurs qui n'avaient aucune expérience, et moi j'avais pas d'expérience non plus de serveur, et du coup, ils changeaient tous les soirs. Et le premier restaurant que j'ai géré, et du coup j'avais besoin de diriger la salle de la cuisine. Du coup c'était écoute, là il manque du pain à la 12, il manque la moutarde à la 4, il manque les couteaux à la viande à la 5, finis tes tables. Et donc c'était ça, et du coup je peux pas me séparer de ce rythme où c'était pas les serveurs la salle qui relançait mes tables, mais c'était moi qui relançais les serveurs. Ça m'a beaucoup appris. Et c'est là que j'ai eu les crises de rage aussi, d'ailleurs. Mais l'autre raison est que quand un client va au restaurant, pour moi, c'est essentiel qu'il comprenne qu'on est pareil. Que moi et nous qui faisons, enfin, le client ou la cliente et nous qui faisons le service, on est pareil. On fait du service, on ne fait pas de la servitude. Ce qui implique qu'il y a des règles. Et il y a la possibilité d'une reconnaissance aussi. Donc, on se regarde dans les yeux, on est au même niveau. Et ça, pour moi, c'est très important de qu'il y ait un regard et qu'on soit sur le même niveau, sur le même, et qu'on n'ait pas besoin de nous cacher. Après, j'ai des collègues qui ne veulent absolument pas être vus pendant qu'ils travaillent. Je le respecte, je le comprends, mais pour moi, c'est vraiment une question politique.
Et vous voyez en face les gens qui mangent et vous les voyez sortir et vous voyez ensuite les tables qu'ils laissent. Il y a un passage dans votre livre Spaghetti Wars qui m'a fait vraiment rire puisque vous observez ces gens et vous regardez dans quelles conditions ils ont laissé leur table, verre à moitié plein, verre complètement dégueulassé d'empreintes digitales, cimetière de serviettes déchirées, œuvres d'art contemporain de cure-dents, déchets divers abandonnés. On comprend beaucoup de choses si on regarde comment quelqu'un gère sa place à table. J'essayais ensuite de me rappeler qui était assis où, pour étudier chaque caractère. Je revoyais les tensions entre les voisins dans les cure-dents, massacrés, et l'image de cette table devenait la cartographie de leur système nerveux. Quelle est la vision de table la plus fréquente en fin de soirée que vous avez eue, que vous avez toujours d'ailleurs ?
Je peux dire d'avoir de la chance relativement peut-être, ou peut-être que j'ai un peu bien travaillé au bout du compte. Que j'ai un peu appris mon métier, les tables sont souvent vides. Il n'y a que les verres.
Ah !
Il n'y a que les verres. Les tables sont vides, il n'y a que les verres. Ça me blesse beaucoup de retrouver des morceaux dans l'assiette parce que je les vois. Je vois les assiettes revenir. Et voilà, donc à la limite, il y a le dessert, il y a la fin du dessert avec un peu de coulis ou un peu de fruits rouges sur le fond de l'assiette. Mais souvent les tables sont vides et voilà, ça fait plaisir de voir une table comme ça où il y a des verres vides eux aussi idéalement.
Et il y a beaucoup de cure-dents massacrés, il y a des gens assez nerveux.
Non, là
à
j'ai arrêté de les donner, les cure-dents. Là en l'occurrence c'était à cette époque-là c'était parce qu'il y avait une dégustation de plusieurs huiles de plusieurs olives et du coup il fallait donner les cure-dents. Mais bon là on peut plus faire ça, on peut plus déguster avec des cure-dents dans la même assiette. Donc. C'est fini.
Vous entendez les conversations ? Est-ce qu'elles vous étonnent ? Est-ce qu'elles vous épatent ? Est-ce que vous apprenez des choses du genre humain que l'on ne sait pas quand on ne travaille pas en cuisine ?
La plupart du temps, c'est d'un ennui terrifiant. Mais il y a quelquefois, c'est extrêmement énervant, surtout au niveau du sexisme et du racisme. Et de la classe, ça aussi.
Et
les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi quand ils sont à table. Et voilà, mais après, c'est pas nécessairement le fait de voir, c'est aussi de. Je vois et je lis les attitudes des gens de loin, quoi. Enfin, je vois très bien s'il y a quelqu'un qui quand il y a une tranche de courge, n'arrive pas à manger la peau. Ne mange pas la peau et du coup fait des acrobaties absurdes, extrêmement laborieuses pour enlever la pulpe de la peau, alors que moi j'ai galéré pendant des heures pour la rendre fumée et croustillante, cette peau. Là on comprend que ce n'est pas un problème de goût et de texture, c'est un problème qui appartient à tout un autre domaine qui ne concerne pas les cuisiniers.
Tommaso Melilli, est-ce que vous êtes comme une éponge qui absorbe les humeurs de votre salle ou est-ce que vous les laissez?
Tout. Je prends tout sur moi, oui. Je prends tout sur moi. Nous, on est. Les restaurateurs sont faits différemment par rapport aux autres êtres humains. Ceux qui ont la vocation d'être restaurateurs sont faits différemment. Nous, on est comme les plantes. Nous, on prend les mauvaises humeurs des gens et on les transforme en bière.
En bière ?
Oui, ou en bière, ou en vin, ou en plat.
Mais vous, comment vous les déchargez, ces humeurs ?
La bière.
Ah. Ah oui, c'est de votre bière à vous que vous parliez.
Non, mais c'est c'est de la bière qu'on donne aux gens. Les gens arrivent énervés, tendus, et puis repartent un peu plus heureux qu'ils n'étaient arrivés. Mais leur malheur et leur tension restent avec nous.
Vous n'arrivez pas à les enlever, c'est ça que je veux
dire. On n'arrive pas à les enlever, mais d'une certaine façon, on en a besoin aussi. On est très bien quand il y a des bons sentiments et des bonnes ambiances, et quand il y a des bonnes gens. Et d'ailleurs, il y a un critère de majorité qui se crée. Si, parce qu'une soirée n'est jamais de 40 couverts, n'est jamais faite que des mêmes gens. Et du coup, il y a dans la première heure du service, il y a quelque chose qui se crée et on bascule du bon ou du mauvais côté de la chose. Et les autres, finalement, s'adaptent et la minorité s'adapte ou elle disparaît un peu, elle s'efface.
Ouais.
Pardon.
Non, pas de
et
problème.
Donc voilà.
Vous allez nous faire découvrir plusieurs plats que vous avez amenés avec vous, Tommaso Melilli. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord on va aller en Italie en musique, si vous le voulez bien, puisque on a prévu d'écouter ensemble là maintenant votre compatriote originaire de Turin, Andrea Laszlo De Simone.
Oh.
Vous le connaissez?
Oui.
Ah, vous l'aimez?
Oui, oui.
Ah, ça tombe bien. Si vous m'aviez dit non, j'aurais été un peu embêtée.
Non.
Immensita, vous écoutez Chacun sa route sur France Inter. Andrea Laszlo De Simone. On le dit comment en italien? Parce que là, je le prononce à la française.
Non, c'est très bien. Andrea Laszlo De Simone.
Immensita. Sur France Inter, vous écoutez Chacun sa route tous les jours, un peu après 14h30. C'est l'un de vous, vous qui nous écoutez, qui nous racontez l'un de vos voyages, un moment qui vous a marqué, bouleversé, touché. Vous nous racontez le répondeur où vous pouvez laisser un message, 01 56 40 68 68, mon compte sur Twitter, HelloFond, mon mail, elodie.fond@radiofrance.com. Aujourd'hui, on file à Brighton avec Vincent. Je vous emmène, Tommaso Melilli.
J'étais parti de Paris, j'avais pris le train jusqu'en Normandie, je sais plus où exactement. Ensuite, j'ai pris le ferry et je suis arrivé vers 4h du matin en Angleterre. Moi, je m'étais dit 4h du matin, il va faire beau, je vais pouvoir me poser sur la plage et je rejoindrai mon couchsurfer vers midi. C'était l'heure à laquelle on s'était donné rendez-vous. Et en fait, pas du tout, il faisait très froid, même si on était au mois d'août. Donc en fait, j'ai lancé mon application Grindr, c'est une application de rencontres gays. J'ai contacté plusieurs personnes en leur expliquant ma situation. Je viens d'arriver, je retrouve mon hôte dans plusieurs heures. Est-ce qu'il y a possibilité de prendre une petite place sur un canapé? Et là, il y a un garçon qui me répond, Carlos, plutôt mignon sur la photo, je dois dire. Et il me dit, bah écoute, ouais, je viens de rentrer de soirée, je suis un petit peu bourré. Si tu veux, rejoins-moi. Donc voilà, je traverse une partie de la ville avec ma valise. J'arrive devant la maison de chez Carlos, plutôt content. Carlos me dit « Fais pas de bruit, mes colocs ils dorment, voilà, viens, on va dans ma chambre. » Donc voilà, on n'a pas beaucoup dormi. En 4-5 heures, j'ai l'impression de vivre une histoire de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Carlos me dit « Bah écoute, pourquoi tu vas rejoindre ton coach surfeur ? Reste avec moi, tu pars demain à Édimbourg, enfin on peut passer 2 jours ensemble. » Mon cœur dit oui et mon cerveau dit non. Si tu commences à changer tes plans, en fait, tu finiras jamais ton road trip et tu vas jamais aller au bout de ton truc. Voilà, je prends ma douche et je pars de chez Carlos. C'est dur. Je vais sur le trajet, je vais au skatepark, là où je dois rejoindre Bénédicte, mon coach surfeur. Et Bénédicte me dit, bah écoute Vincent, si tu veux, on va poser tes valises chez moi. On fait un petit peu marche arrière avec Bénédicte et là, on arrive dans la rue de chez Carlos. Et dans ma tête, je me dis non, j'ai pas envie de repasser là. Enfin, faut que je pense à autre chose et tout. On arrive devant la maison de chez Carlos. Et là, Bénédicte sort ses clés, met les clés dans la serrure du portail et me dit, voilà, on est chez moi. Et là, je me dis non, c'est pas possible. J'étais là il y a une heure, quoi. Et du coup, je remonte les escaliers. Donc, il me dit là, c'est la salle de bain. Il me dit là, c'est la chambre de mon coloc Carlos. Bah oui, je sais très bien. J'ai passé la nuit ici. Il me dit, bah vas-y, pose tes valises, quoi. Et là, il y avait tous ces colocs. Et en fait, là, ça peut paraître complètement bizarre, mais avec Carlos, on a improvisé. En fait, on a dit qu'on s'était rencontrés à Londres un an auparavant et que c'est un gros hasard qu'on se retrouve ici. Et tout le monde y a cru. Tous les gens y ont cru et à partir du moment où on a dit ça, bah avec Carlos, ça nous a un peu libérés et en fait, on a passé la soirée ensemble. J'avais l'impression en fait de connaître Carlos depuis des mois et de vivre une relation qui existait depuis un moment. Et le soir, je prenais donc mon avion pour Édimbourg. Donc les adieux ont été hyper durs. J'ai passé 2 jours à Édimbourg où ça a été un peu compliqué. Ensuite, je suis allé à Manchester pendant 2-3 jours. Et ensuite, je suis arrivé à Londres. Et ensuite, je savais que Carlos travaillait à Zara. Et en fait, Londres, de Brighton, il y a à peu près 3 quarts d'heure en train. Donc en fait, j'ai décidé de prendre un train. Et je suis arrivé à Brighton. Et je suis allé au Zara. Et là, Carlos travaillait. Et du coup, je l'ai retrouvé. Il était à la caisse. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là et tout? Et je lui ai dit, bah, je sais pas, j'avais envie de te voir avant de partir sur Berlin. Et il m'a dit, j'ai pas de pause, donc je peux pas sortir, je suis désolé. Et en fait, il était juste dans le magasin, on s'est tenu la main, je lui ai donné une lettre que je lui avais écrite. Ça m'a fait super plaisir, et ensuite j'ai pris l'avion pour Berlin. Et voilà, c'est une personne avec qui je pense que je serai connecté jusqu'à la fin de mes jours, et je suis content de rester en contact avec lui et d'aller le voir peut-être en août.
Voyager, c'est aussi parfois tomber amoureux, aimer. Est-ce que les gens amoureux sont de bons clients, Tommaso Melilli?
Pardon. Oh, si. Généralement, oui. Ils ont tendance à être très gentils l'un avec l'autre, et du coup, forcément, ils essaient de ne pas être extrêmement désagréables avec nous.
Oui, pour donner une bonne image d'eux.
Oui, pour donner une bonne image d'eux.
Je ne vous demande pas si vous avez déjà voyagé par amour, puisque vous m'avez déjà répondu tout à l'heure.
Si, je l'ai beaucoup fait. Mais
oui, c'est ça.
Oui, mais toujours en grognant un peu.
Ah, quand même, toujours en grognant
non,
un peu.
Pour voyager à la recherche, oui, ça c'est autre chose. Ça, on le fait toujours avec grande angoisse et grande agitation pour découvrir, trouver, pour retrouver et tout. Après, quand les choses sont installées, il faut aller, voilà, il faut faire cette faut obtempérer à cette corvée des vacances du départ. Non, là, c'est fatigant.
Ah, quand vous êtes avec quelqu'un depuis un petit moment, vous ne partez plus en vacances avec, quoi. C'est ça que vous nous dites?
Non, je le fais, mais ça me fait pas trop, voilà.
Ça vous fait moins plaisir.
Mais ça va peut-être changer, on verra.
Ah. Parce que j'allais dire, je ne sais pas si votre amie vous nous écoute, mais j'espère qu'elle n'est pas avec vous depuis très très longtemps, parce que sinon, c'est peut-être pour elle que vous dites ça. Vous êtes arrivé, donc je le disais tout à l'heure, non pas les mains vides, mais avec plusieurs plats. Vous êtes arrivé avec quoi? Racontez-nous.
Avec 3 plats que j'ai à la carte en ce moment, que je suis en train de faire en ce moment. Et donc un, c'est une recette qui n'est pas à moi, mais qui est de ma grand-mère et que je fais souvent, surtout quand je suis en France. Donc c'est un pâté de foie de volaille, tout simple, qui est ce genre de recette qui a un équilibre parfait entre les ingrédients, parce qu'il y a une part de foie de volaille, une part d'oignon et une part de beurre. C'est tout.
Tout simplement.
Tout simplement. Du sel, du poivre, et c'est tout.
Vous dites que c'est une recette de votre grand-mère, c'est ça ?
Oui, une recette de ma grand-mère qu'elle a récupérée par un restaurateur parce qu'elle l'avait mangée là, et voilà.
C'est rigolo le nombre de chefs qui parlent de leur grand-mère.
Oui, bah moi c'est un peu... Voilà, bah, après on part tous de... Moi je pense que la moitié de nos souvenirs, et de nous tous, de nos souvenirs gustatifs, vient de l'enfance. L'autre moitié vient des choses qu'on a vécues et des choses qu'on a décidé d'aimer. Donc de la culture, donc il y a une moitié de nostalgie et l'autre moitié c'est bah, accident et choix de découverte. Mais cette moitié de nostalgie, on s'en débarrasse pas. Donc forcément, on part de ça, c'est de là qu'on part. Et puis, bah, pour moi, après l'idée qu'il y ait toute une gestuelle, un système de gestes qui appartient à une communauté de n'importe quel type, hein, pas nationale, locale ou une famille. Enfin, une famille aussi, c'est une communauté qui a des gestes et se transmet des recettes. Là, c'est le cœur de ma recherche en cuisine. Enfin, j'ai pas envie de d'étonner par la petite herbe ou la petite sauce et tout. Bah, après, toute la technique aussi, bien sûr, des cuissons. Mais ce que j'essaye de, enfin, mon plus grand désir, mon plus grand rêve en cuisine serait d'inventer des plats qui auraient pu être un plat de notre grand-mère, un plat de notre tradition, mais qui n'ont jamais existé.
Alors, par exemple, dans
par exemple, oui, là, on a du thon blanc, un pavé de thon blanc, et qui, moi, ça me gêne toujours énormément quand le thon est, quand le poisson est pas bien cuit, surtout quand il est quasiment cru ou beaucoup trop cuit. Et donc là, il est enrobé par une feuille de figuier, on utilise de la ciboulette à la place d'une ficelle pour le fermer. La feuille de figuier est juste pochée, une minute. Et puis on l'enrobe en faisant une sorte de paupiette, voilà. Et puis on le rôtit à la poêle pendant, voilà, 4 minutes d'un côté, 4 minutes de l'autre. Et c'est quasiment impossible à rater parce que la feuille, en plus, protège la chair d'une surcuisson.
Oui.
D'une surcuisson, mais surtout elle infuse. Étant le thon gras, elle infuse avec son parfum très végétal, lacté. Et voilà, donc c'est une chose qu'on peut manger à la minute ou qu'on peut aussi saisonner avec un goutte de vinaigre et la manger froide beaucoup plus tard.
Et quelque chose que vous faites souvent, c'est aussi de prendre des légumes et de leur ajouter une sauce que... Normalement, enfin a priori, on met avec des pâtes.
Exact. Bah, ça c'est l'autre plat que je vous ai ramené. Et cette histoire vient d'une découverte que j'ai faite en étudiant les grands classiques de la cuisine française, c'est-à-dire en lisant Ma Cuisine, le grand manuel d'Escoffier, d'Auguste Escoffier, donc le roi des le chef des rois et le roi des chefs. Et qui, dans son manuel, lui, il a inventé les brigades, les pêche-melba, la moitié des choses dont on parle encore, c'est lui qui les a inventées. Il a inventé la structure des cuisines, les chefs de partie et tout. Et il a fait une partition des ingrédients selon les brigades qui devaient s'en occuper. Donc, un cuisinier plus expert va s'occuper des viandes, un cuisinier moins expert va s'occuper des légumes ou du garde-manger. Les cuisiniers chiants vont s'occuper des desserts. C'est un peu la règle, par punition.
Ouais.
Et donc, pour lui, dans les pâtes sont un légume. Donc, je me suis dit, bah, bon, quand même, pas tout à fait. Et donc, je me suis dit, et là, j'ai un truc, je me suis dit, souvent, j'ai pas envie de manger les pâtes, mais j'ai envie de manger les sauces. Je me suis dit, bah, je vais essayer de cuisiner des légumes avec les sauces des pâtes.
Et là, en l'occurrence, des haricots, avec quelle sauce ?
Des haricots verts à la puttanesca, donc des haricots verts cuits pendant une heure et demie dans une sauce à base de tomates, capres, olives, persil, ail, piment et anchois.
Thomas Omelili, là, vous êtes à Paris, évidemment, puisque vous êtes dans ce studio avec nous. Mais ces deux dernières années, vous êtes beaucoup plus retourné en Italie. Vous y êtes même resté un long moment pendant le confinement. Y étiez en Italie. Pourquoi vous avez eu envie, ce besoin même, de retourner dans votre pays d'origine ?
je dirais, parce que je suis un homme libre. Et donc, je suis libre aussi de l'obsession de mes origines. Et je n'avais pas besoin de les effacer. Et je n'avais pas besoin non plus de partir en courant d'une ville où, comme Paris, où j'avais passé 10 ans de ma vie et où j'avais fait beaucoup de trucs. Donc, je me suis dit, OK, bah, il y a un moment où j'ai pas d'attachement particulier, j'ai un travail qui me plaît beaucoup et où je gagne bien ma vie, mais j'ai un peu fait le tour de la question. Donc, voilà, ça ne va pas spécialement avancer dans la prochaine année si je continue ici. Je suis libre. Bon. J'en profite et je vais voir et je vais essayer de faire les comptes avec mon pays et avec le pays où j'ai grandi mais où je n'ai jamais été adulte et surtout étant devenu cuisinier italien et un peu malgré moi mais identifié comme cuisinier italien qui reproduit cette ambiance joyeuse et abondante, voilà, mais je la reproduisais parce qu'elle était partie de moi, de mon caractère aussi, mais en même temps je me suis dit j'ai jamais travaillé un jour dans mon pays.
Donc vous vous êtes dit, je vais aller voir à quoi ça ressemble, ouais. et d'où votre dernier livre, I conti con l'oste, qui veut dire ?
Oh, c'est très compliqué, j'essaie de faire court. C'est un proverbe tordu, en fait, c'est la torsion d'un proverbe. Le proverbe de base est « fare i conti senza l'oste », donc calculer l'addition sans le patron. Donc on se met là, on se dit « bon ok, j'ai pris ça, et après on demande la note, et ben non, c'est beaucoup plus, parce que l'addition se fait à la tête du client, ben surtout c'est le patron qui fait la note, pas nous. » Donc ça, c'est un proverbe très répandu en Italie qui est carrément, je dirais, l'équivalent de faire des plans sur la comète, en français.
Ah, ça va s'appeler comme ça en français ou pas ?
Non, on est encore en cours de réflexion, je peux pas me...
Et ce sera édité chez Stock dans quelques mois.
En mars de 2021.
Mars 2021. Vous qui aimez parler avec vos clients, enfin ça dépend lesquels, Tommaso Melilli, Conversation, c'est aussi le titre qui marque le retour du chanteur canadien Peter, un extrait de son 4e album, studio prévu pour la rentrée. Conversation, vous écoutez France Inter. Conversation, Peter sur France Inter, chacun sa route avec le chef Tommaso Melilli jusqu'à 15h qui a un pied en France, un pied en Allemagne, à cheval entre deux gastronomies, la française et l'italienne qui estiment chacune être la meilleure du monde. Est-ce que c'est pas trop lourd à porter, Tommaso Melilli ?
Non, ça va. Ça va, elle se ressemble beaucoup plus qu'on le penserait. Et puis, il suffit de penser qu'il y a, voilà, il y a pas d'identité, il y a juste appartenance. On peut tout à fait appartenir aux deux. Et il y a deux France et deux Italie au moins aussi. Une France du beurre et une France de l'huile. Une Italie du beurre et une Italie de l'huile.
Tout est, ah, il y a aussi plus... une Italie du beurre?
Ah bah oui, celle d'où je viens.
Ah, je ne savais pas. Je pensais que c'était de l'huile partout.
Ah non, pas du tout.
Nous, on a ce cliché des pays qui longent la Méditerranée. On a l'impression que tout le monde
pas du tout.
Cuisine
dans,
à l'huile.
En Lombardie et dans la plaine du Pô, les oliviers et l'huile d'olive sont arrivés avec la globalisation.
Tommaso Melilli, j'ai une mission pour vous. Chaque jour, pour terminer chacun sa route, on fait le portrait d'une exploratrice. C'est la même, toute la semaine. Et cette semaine, on raconte la vie de Leslie Blanche. Lundi, on a raconté son enfance et sa rencontre avec le mystérieux voyageur, son premier grand amour qui lui donne l'envie de voyager. Hier, ses premiers voyages, justement, et sa rencontre avec Romain Gary, qui devient, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, son mari. Tommaso Melilli, vous êtes, pour les prochaines minutes, Leslie Blanche. Au début des années 50, alors que Leslie Blanche s'appelle désormais Leslie Gary, elle est mariée à un certain Romain Gary, et qu'ensemble, ils voguent de ville en ville, au gré des missions diplomatiques proposées à l'auteur, Leslie Blanche, elle aussi, écrit. Elle publie en 1954 son premier roman, « Vers les rives sauvages de l'amour », et c'est un best-seller, un succès inattendu. Et évidemment pour elle assez jouissif, un peu plus dur à digérer pour son mari, dira-t-elle. Elle raconte les parcours de quatre femmes qui, comme elle, fuient l'ennui des conventions. L'une d'elles, figurez-vous qu'il s'agit d'Isabelle Eberhardt, dont nous avons fait le portrait en début d'été, à retrouver en podcast. Quelques années plus tard, elle écrit « Les sabres du paradis », son livre préféré. Nous sommes en 1960 et c'est un voyage au Caucase qui l'inspire particulièrement. Ici, elle retrace l'itinéraire de l'imam Chamil, l'homme qui, au XIXe siècle, galvanisa les tribus musulmanes du Caucase pour les inciter à résister aux Russes.
C'est lui qui écrit sur le Caucase, écrit sur les extrêmes, et c'est lui qui écrit sur la Russie, sur le sens du tempérament russe, écrit sur les excès. Sur les champs de bataille du Caucase, ces deux tempéraments devaient se rencontrer avec des terribles conséquences.
Pour écrire ce livre, elle se documente pendant 5 ans, consulte des archives militaires, et si on peut lire ses livres comme des romans, ils sont aussi des livres d'histoire. Pour elle, le décor est primordial, c'est lui qui nous emmène dans les recoins d'une existence. Au tout début des années 60, son mariage avec Romain Gary se dilue. Il a de nombreuses conquêtes, toutes de plus en plus jeunes, et Leslie le sait. Accessoirement, il s'aime autant qu'il s'exaspère.
Pour Romain, il fallait que les histoires finissent mal.
Elle raconte par exemple le moment où Gary a écrit La promesse de l'aube en 1958.
Nous étions au Mexique ensemble. Il m'a donné page par page à la lecture. Il m'a poursuivi dans la maison avec ses pages. On avait l'impression que les pages fumaient avec la passion qu'il avait mise là-dedans. Après ça, son caractère était totalement changé. Après, il est devenu une autre personne. Pas plus heureuse, mais plus arrogant.
Il divorce en 1963, Romain Gary lui préférant alors la compagnie de la jeune Jean Seberg. Même divorcée, Leslie gardera Gary en nom de famille. Elle riait.
En France, cela améliore ma place à table.
Plus tard, beaucoup plus tard, en 1998, Leslie Blanche écrira « Romain, un regard particulier ». Lui, en 1958, écrit sur elle « Lady L ». Après ce divorce qui gardera pour elle pendant longtemps un arrière-goût amer dans la bouche, la voici qui repart, seule, cette fois, à l'assaut de paysages et d'histoires à avaler et à digérer. La suite, demain. Et sachez qu'ensuite, tous les portraits sont en podcast dans leur intégralité. Si vous suivez le podcast Chacun sa route, et tout ça est aussi à retrouver sur franceinter.fr, vous êtes beaucoup à me demander où. C'est parce qu'on met quelques jours à les mettre ensuite en ligne. Mais là, par exemple, vous pouvez retrouver celui d'Harriet Tubman. Ça y est, il est en ligne, celui que l'on a dit toute la semaine dernière. Cette femme extraordinaire, figure de la lutte contre l'esclavage. Tommaso Melilli, vous me disiez que vous connaissez le Caucase, vous y êtes allé.
Si, je suis allé dans le voyage le plus exotique que j'ai fait, je pense, qui n'était pas si exotique que ça, mais je suis allé il y a 4 ans en Géorgie, en road trip, en essayant à la recherche du berceau et de la terre d'origine du vin naturel. Donc, et du vin en général. Et du coup, on avait fait ce voyage, découvrant ce paysage absolument absurde de la Géorgie qui, en 10 kilomètres, change de la Pampa à une espèce de Toscane un peu décoiffée. Et donc, c'était assez joli, assez curieux à voir. Les vins sont particulièrement bizarres. Et voilà.
Thomas Omelili, cette émission s'appelle Chacun sa route. Chacun sa route, chacun son chemin. C'est une chanson. Quel message passer à votre voisin? Prenez-le comme vous voulez, votre vrai voisin si vous le souhaitez.
De toujours essayer de se sentir, d'être dans le lieu où on est bien. D'être dans le lieu où on est bien, où l'on est bien. Sans avoir peur et sans s'obliger à être ailleurs non plus.
Merci beaucoup Thomas Omelili d'être venu aujourd'hui dans cette émission Chacun sa route, épisode 28. Revenez demain, on suivra la route un peu folle de la styliste Agnès B. Et je vous parlerai de ma passion pour les cheveux, enfin j'en parlerai avec un sociologue capillaire, Michel Messu. Merci beaucoup à Céline Dubois, Louise Cognard, Thomas Omaro qui ont préparé cette émission et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. C'est avec vous, auditeurs, que l'on se quitte tous les jours. Vous pouvez nous laisser un message 01 56 40 68 68 où vous nous racontez un souvenir musical lié au voyage. Faites comme Céline aujourd'hui.
Rien que le refrain me transporte dans l'enfance, ma mère me chantait souvent pour m'endormir le titre Sweet Dreams d'Eurythmics à base de bons synthés des années 80. Ce n'est que bien plus tard que je me suis rendu compte de la teneur des paroles, de l'innocence à l'avertissement. Mais on continue toujours à la chanter ensemble à tue-tête quand elle passe à la radio et ça m'ambiance toujours autant.
C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de bouger la tête quand on entend Sweet Dreams, Eurythmics. Sur France Inter, c'est assez bizarre de le dire. Bonjour Jean Morel.
Bonjour.
Qui bouge la tête aussi d'ailleurs.
Je bouge la tête, mais en plus ce qui m'amuse c'est que là c'est une histoire de relation filiale où on partage avec ses parents. Et moi dans Haute Fidélité dans quelques instants je vais vous raconter des histoires d'amour entre ex-amoureux mais qui font encore des morceaux ensemble. Ça existe.
Dans quelques secondes sur France Inter, il est 15h.